Monsieur Gagnon, j'aimerais quand même qu'on s'attarde à la période là où M. Laporte n'a pas été enlevé, mais le gouvernement du Québec, le gouvernement Bourassa, est sûrement en état d'alerte par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'on craint à ce moment-là que des ministres du gouvernement puissent être enlevés ou est-ce que l'enlèvement de Pierre Laporte a un effet de surprise et d'effroi incroyable?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que suite à l'enlèvement du diplomate Cross, les mesures de sécurité ont été augmentées pour ses ministres. Et je me rappelle d'ailleurs d'avoir eu une discussion quelques jours avant son enlèvement au cabinet du ministère de l'Immigration. Et on avait dit à M. Laporte, prenez des précautions. Vous savez que vous devez vous protéger. Mais malheureusement, ces protections-là n'étaient pas là. Donc, quand est arrivé ce jour fatidique de son enlèvement, ben il jouait au ballon devant sa résidence avec son neveu et il a été facilement, à ce moment-là, kidnappé.
Comment vous l'avez appris, M. Gagnon? Qui vous apprend que votre patron, finalement, vient d'être enlevé?
Moi, je l'ai appris en arrivant à la résidence de M. Laporte parce qu'il faut comprendre que le lendemain, M. Laporte et moi, et le sous-ministre de l'époque, nous quittions pour faire la tournée des postes à l'étranger, parce que M. Laporte était ministre de l'Immigration. Donc, on s'en allait visiter les postes à Paris, Rome, Beyrouth et Athènes. Alors, moi, je suis en route, j'arrive à la résidence de M. Laporte, et je vois cette foule nombreuse sur place, avec les gyrophares, avec la police, la Sûreté du Québec, la police municipale, et je me demande qu'est-ce qui arrive. Et là, on me dit, ben écoutez, M. Laporte vient d'être enlevé, donc je pénètre dans la maison, et très rapidement, on nous déménage au Reine-Élisabeth. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui. Il faut dire qu'à ce moment-là, le téléphone cellulaire n'existe pas. Voilà. Les moyens de communication, Internet, Facebook, Twitter et tout ça, n'existent pas non plus. Donc, il faut se replacer dans le contexte de 1970. Au moment où ces événements-là surviennent, on ne peut pas vous appeler et puis vous dire, écoutez, monsieur Laporte vient d'être enlevé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous l'apprenez, parce qu'à ce moment-là, par pure coïncidence, vous vous dirigiez à son domicile.
Oui, parce qu'on quittait le lendemain, donc je lui apportais le plan de voyage, voilà qui on va rencontrer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et en arrivant sur place, j'apprends qu'il vient d'être kidnappé, alors c'est un choc épouvantable, un choc également pour la famille. Il faut bien comprendre que M. Laporte est père de famille, c'est un époux, il est responsable d'une grande famille parce que ses deux frères étaient décédés, donc sur place, il y avait en plus de, à l'époque, il y avait, je crois, ses deux belles-sœurs. Donc, c'est vraiment un état de choc complet.
Oui.
Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on a vécu son enlèvement.
Oui. Entre le 10 octobre, qui est la journée de l'enlèvement, et le 16 octobre, où on va, à la demande, dit-on, de Robert Bourassa, déclencher la loi des mesures de guerre, quelle atmosphère règne-t-il au Québec à ce moment-là et au gouvernement? Et quelle est votre fonction? En fait, est-ce que vous vous retrouvez dans une espèce de no man's land parce que Pierre Laporte vient d'être enlevé, qu'on négocie ou pas avec le FLQ? Qu'est-ce qui se passe dans ces six jours-là, finalement, entre le 10 octobre et le 16, déclenchement des mesures de guerre? Qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui se passe au gouvernement?
Ben, moi, je fais le lien à ce moment-là entre la famille Laporte et le cabinet du premier ministre, M. Bourassa, et son chef de cabinet, son attaché de presse. Je fais le lien pour apporter des nouvelles à Mme Laporte pour dire, ben voilà où on en est dans les négociations, on pense que c'est possible qu'on puisse libérer M. Laporte, que certaines conditions sont prêtes à être acceptées. Donc, il existe, M. Saint-Pierre, un état complètement de panique parce que il faut comprendre que nous sommes alimentés par des informations qui nous viennent de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal. Or, à ce moment-là, on craint vraiment que la ville de Montréal saute au complet Et c'est vraiment un état de panique générale qui règne au Reine-Élisabeth, qui règne même à l'intérieur du Conseil des ministres. Il faut bien comprendre aussi, M. Saint-Pierre, que M. Bourassa vient à peine d'être élu premier ministre. Il a 36 ans. Les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais il a 36 ans, il est premier ministre et il est à gérer une crise comme jamais le Québec n'en a vécu. Et donc, on est alimenté par les renseignements qui nous viennent de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal qui nous disent que la ville de Montréal est presque en train de sauter. Oui. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très grave et très sérieux, paniquant, ce qui se passe au Reine-Élisabeth à ce moment-là entre la famille Laporte et le gouvernement du Québec.
Monsieur Gagnon, est-ce qu'on croit à ce moment-là, pour les souvenirs que vous en avez, est-ce qu'on croit à ce moment-là que la crise va se résoudre, sans dire qu'elle va se résoudre d'elle-même, là, mais que le FLQ va libérer Monsieur Laporte et qu'on ne pouvait même pas, à ce moment-là, espérer la fin que l'on connaît aujourd'hui?
Non, on avait de l'espoir. Pour ne rien vous cacher, on avait de l'espoir parce que M. Bourassa avait dit qu'il était prêt à libérer deux prisonniers politiques. Vous vous rappelez que c'était une des conditions à l'époque de libérer les 23 prisonniers politiques. Donc, M. Bourassa avait de l'espoir qu'on pouvait arriver à une entente et les négociations étaient tellement avancées qu'on avait même prévu qu'en retour du sauve-conduit des deux otages à Terre des Hommes, bien, on pouvait à ce moment-là libérer les deux prisonniers politiques pour en arriver à une entente. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces négociations-là n'ont mené à rien. Oui. Et quand on relit les notes de notre négociateur, Maître Robert Demers, avec Robert Lemieux de l'époque, on voit que ça a amené absolument à rien. Donc, quand est arrivée la loi des mesures de guerre, ben là, on a bien compris que c'était fini.
Oui. 50 ans plus tard, comment faites-vous l'analyse de la mort de Pierre Laporte à partir des renseignements qui, au fil du temps, nous en ont appris plus, à savoir que Pierre Laporte se serait d'abord infligé des blessures en tentant de s'évader par une fenêtre et que c'est finalement au bout de son sang qu'il serait décédé puis transporté ensuite dans le coffre d'une voiture. Est-ce que vous croyez à cette thèse-là qu'on a racontée, d'ailleurs dans un documentaire qui a été livré tout récemment là, par le neveu de Paul Rose?
Le fils
de Paul Rose, pardon, oui.
Ben écoutez, quelle que soit la thèse, que ce soit la thèse de l'accident, que ce soit la thèse d'un meurtre prémédité, dans la vraie vie, ils l'ont kidnappé, point à la ligne, puis ils l'ont tué. Alors, que ce soit par accident ou que ce soit prémédité, mais dans les faits, alors je peux pas abonder dans un sens ou dans l'autre. La version de l'accident est possible aussi. Et de fait, il était blessé lorsqu'on l'a retrouvé dans le coffre de l'auto. Mais est-ce qu'on l'a rachevé dans le coffre de l'auto? Je ne peux vraiment pas m'avancer là-dessus parce que c'est trop incertain. Mais un fait demeure, M. Saint-Pierre, on a tué un homme politique qui avait une vision pour le Québec. Et c'est ça qui m'attriste aujourd'hui, qu'on ne rend pas justice à cet homme qui, après tout, avait créé la ville de Laval. Il ne faut pas oublier ça. C'est lui, comme ministre des Affaires municipales, au début du mandat de M. Lesage, avait créé la ville de Laval. Et aujourd'hui, on oublie ça. Oui. C'est très important.
En terminant, M. Gagnon, sur le plan personnel, on va terminer avec ça. Sur le plan personnel, de quelle manière ces événements-là vous ont-ils marqué? Parce que je suis certain qu'ils vous ont marqué. Quelle influence ont-ils eu sur la suite de votre vie à partir du 10 octobre 1970?
Ben, c'est des événements qui m'ont non seulement marqué, mais profondément bouleversé. Ça m'a pris plusieurs années à me remettre de tout ça. Et à chaque fois que des amis veulent m'en parler, je leur dis non, je ne suis pas prêt, je ne veux pas en parler. Je me suis tout simplement recyclé. Je suis devenu un expert en affaires publiques. Et ayant géré cette crise-là, peut-être ça m'a aidé en quelque sorte à en gérer d'autres crises. Mais ça a été difficile. Très difficile sur le plan professionnel. Il faut comprendre que c'était très, très, très difficile de se recycler, de refaire sa carrière. Là, je suis allé après ça dans l'édition, Après ça, on a fondé un cabinet d'affaires publiques.
Avez-vous été pendant un certain temps stigmatisé par cet événement-là? C'est-à-dire que pendant, je ne sais pas moi, un certain nombre de mois, d'années, vous avez toujours été identifié à celui qui était finalement le chef de cabinet de Pierre Laporte plutôt que d'être tout simplement Jean-René Gagnon?
Vous avez tout à fait raison. Ça m'a stigmatisé. Et à chaque fois qu'on me présentait, par exemple, pour des réunions d'affaires, bon, on ajoutait « Il a été le chef de cabinet de Pierre Laporte assassiné le 17 octobre 1970. » En effet, c'est et en réalité, ça me fait à la fois plaisir d'être identifié à Pierre Laporte, mais en effet, ça m'a vraiment, vraiment stigmatisé pendant toute ma carrière. Et ça demeure encore aujourd'hui. Lorsque je parle parfois... Par exemple, par affaire à des Américains, ben on relate ces événements-là lorsqu'on parle de moi. Oui. Et malheureusement, ça va me suivre jusqu'à la fin.
Jean-René Gagnon, merci beaucoup de ce témoignage-là. C'est très, très, très apprécié. Votre confiance particulièrement est appréciée. Et encore une fois, je veux remercier Jean Brisson d'avoir été présent dans nos négociations. Merci à vous.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Plaisir. Jean-René Gagnon, ancien chef de cabinet du ministre Pierre Laporte. Jour pour jour, si nous étions en octobre 70, les funérailles de Pierre Laporte auraient eu lieu hier.